Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les musiciens indés croisent un jour. Comment on fait passer un morceau de notre ordi jusqu'aux oreilles des gens? La distribution musicale. C'est un peu la partie cachée de l'iceberg. On en parle peu, mais sans ça, ta musique reste sur ton disque dur. On va explorer ensemble les options qui existent aujourd'hui, du gros classique comme Spotify, Apple Music, aux trucs plus directs comme Bandcamp, sans oublier les supports physiques pour les fans hardcore. Et comme on n'est pas juste là pour lister des noms, on va aussi comparer ce que rapporte une vente directe par rapport au streaming, vous donner la liste des plateformes avec leur taux de paiement, et parler un peu paperasse aussi, avec la SACEM, la SABAM, la SUISA, et tout ce qui touche aux droits d'auteur. Et puis forcément, on vous racontera aussi nos galères et nos choix à nous, avec moi, PKMWT en Suisse, et l'INVI en Belgique. Parce que, selon où on est, c'est pas toujours le même délire. N'est-ce pas, l'INVI? Bonjour!
Salut PKMWT, ça va?
Ouais, ça va super!
Nickel.
Une fois, on enregistre le matin, tu vois, enfin le matin, ça va, il est 10h. Donc là, on est en pleine forme, là, avant la grosse canicule qui envahit à la fois la Belgique et la Suisse. Toi, t'as une canicule hein, chez toi aussi.
Oui, là, je suis en plein dedans, ouais. Un petit 30 degrés dans l'appartement, tranquille.
Voilà. Ah, donc, on enregistre le matin pour éviter qu'on entende des bruits de clim dans l'enregistrement. Je pense que ça va être ça. Voilà. Même si vous nous écoutez en hiver, peut-être qu'une partie de la chaleur de ce podcast vous parviendra. Voilà, voilà. Aujourd'hui, grand sujet, la distribution. Je pense que ce sujet va un petit peu clôturer les épisodes précédents où on parlait de A à Z, de comment produire une musique, d'une idée jusqu'aux oreilles des gens. Voilà, c'était un petit peu même ce que je disais dans la première phrase. La distribution, voilà, base de la distribution musicale. Alors, qu'est-ce que la distribution? Quel est son rôle? Alors, c'est un peu facile à expliquer, mais je te laisse me donner ton point de vue, l'INVI, dis-moi.
C'est la distribution, effectivement. Moi, ça me paraît assez simple. C'est juste de publier sa musique, de la mettre à disposition des auditeurs en ligne, donc sur les différentes plateformes. Donc après, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Donc ça pourrait être soit comme beaucoup font au début, c'est juste SoundCloud. Mais après, vise un peu plus large, avoir sur Spotify, Apple Music, Amazon Music et encore.
Ouais. Moi, tu vois, quand je voulais éditer ma première musique, je me suis dit, allez, je vais sur Spotify.com et je cherche le lien pour pouvoir publier ma musique. Ouais, et là, la première déception, c'est qu'on ne trouve rien.
Ouais.
En gros... Peut-être, alors je ne sais même pas si ça marche ça, mais est-ce qu'il existe une adresse mail sur laquelle moi, tu vois, je prends mon petit MP3, je le glisse dans un email, j'envoie à submission@spotify.com. Est-ce que ça existe ça? Je ne sais même pas, hein, ça existe.
Je crois que ça dépend des plateformes. Ça dépend des plateformes parce que je crois que la plupart, elles le précisent explicitement, c'est qu'il faut passer par un distributeur, elles ne gèrent pas en direct les artistes. Après, pour Spotify, en soi, je ne sais pas, parce que quoique, on peut uploader des podcasts en direct, mais pour la musique, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des plateformes qui disent explicitement non, et puis il y en a d'autres, comme Angami, par exemple, qui, à la base, travaillait via les distributeurs et qui, depuis peu, permet aux gens de s'inscrire sur la partie créateur ou for artist, qui est la plateforme où on gère les musiques du distributeur, et alors on peut faire des soumissions en direct.
Ouais.
Mais... voilà, normalement, la plupart du temps, il faut en fait un distributeur.
Voilà. Et puis, c'est une des premières choses qu'on va faire en tant que musicien, c'est aller voir, chercher sur Google comment puis-je distribuer ma musique. Et là, on commence à voir les premiers liens sponsorisés qui débarquent. Et on a des plateformes comme un DistroKid, comme un TuneCore, un CD Baby, ce genre de choses. Et c'est bien sûr, nous, ce qu'on a eu comme expérience. Alors. Ensuite, ok, je veux distribuer ma musique, mais moi, je suis un vieux de la vieille, tu vois. J'ai vraiment envie d'y aller encore éditer peut-être un CD, peut-être un vinyle, peut-être une cassette. Je sais que la cassette est aussi revenue un petit peu à la mode à un moment donné. Je ne sais même pas où ça en est, ça. Mais en tout cas, le vinyle ne s'est jamais vraiment éteint, ça c'est sûr. Mais il y a encore le support physique, effectivement. Donc, il y a vraiment encore cette approche support physique. Est-ce qu'on peut, en tant qu'artiste, vivre uniquement du support physique, d'après toi?
Je veux dire, c'est un peu comme pour le streaming, ça dépend du nombre de ventes que tu fais. Maintenant, après, c'est bien de se diversifier pour optimiser les chances d'avoir assez de revenus pour en vivre. Mais a priori, ça dépend juste des montants des ventes que tu fais. Si tu ne vends pas beaucoup, tu n'arriveras pas en vivre. Si tu fais des ventes suffisantes, mais après, je veux dire, De toute façon, tu accompagneras ça en général avec le streaming, je pense, parce que je ne vois pas l'intérêt de ne faire que du physique. Donc, tu ferais les deux, a priori, pour moi.
Oui, bien sûr. En fait, l'idée, selon moi, c'est plutôt de se dire, OK, bah, moi, je peux bien vendre un support physique. Je sais qu'il y a des cultures dans lesquelles ça se fait encore beaucoup. Le Japon, par exemple, est encore très attaché à son CD-ROM ou à ses supports physiques. Mais tout dépend du moyen qu'a ton fan de t'écouter ou de te découvrir aussi. Est-ce que quelqu'un va encore actuellement exclusivement écouter du vinyle, même du CD, ne serait-ce quand il est dans le train, quand il est dans les transports en commun, quand il est dans sa voiture? Alors, je peux croire qu'il y a dans la voiture encore des cassettes et des CD, hein, vu l'état de certaines voitures, mais est-ce que c'est encore quelque chose de pratique? Est-ce que tout le monde n'est pas passé au Bluetooth ou tout simplement au streaming depuis son téléphone?
De toute façon, la majorité des personnes, si, avec l'époque dans laquelle on vit, je pense que tout ce qui est réservé en support physique, ça reste plutôt niche. Mais il y a encore des gens qui ont des lecteurs vinyles qui adorent écouter en vinyle chez eux ou autre. Mais dans la plupart des cas, monsieur tout le monde, en général, on a toujours une petite application Spotify qui traîne quelque part, ou YouTube Music ou autre. Donc, après, il y a encore des gens qui écoutent en MP3, sauvegardés sur le téléphone. Il y en a encore qui achètent des CD, qui ripent le CD pour récupérer les morceaux en ayant acheté le CD. Voilà, il y en a qui écoutent encore du vinyle. Donc, il y a toujours des exceptions, c'est sûr. Mais bon, la majorité des personnes, moi, de ce que je vis, de ce que je connais, c'est que tout le monde écoute en streaming principalement, quoi.
Ouais. Donc, et surtout pour un artiste débutant. Pour moi, un artiste débutant qui se représente pas sur scène, comme c'est notre cas pour l'instant, c'est difficile de se dire, le seul moyen que tu as de m'écouter, c'est d'acheter une platine vinyle ou d'en posséder une. Donc ça te coupe, je pense, plus de 80% de ton auditorat, quoi, en gros. Et dans le lot, des potentiels gens qui vont te découvrir et qui vont te dire, lui, j'ai envie de continuer à l'écouter et puis le soutenir, quoi. Donc c'est très particulier. Si on partage un peu nos expériences à nous, je pense que c'est assez clair qu'on ne s'est jamais, au début, en tout cas de nos premiers morceaux qu'on a voulu poster, on ne s'est jamais vraiment posé la question, est-ce qu'on va faire que du support physique ou que du streaming? On est allé directement au streaming, quoi, on est d'accord.
Ah, c'est ça.
De toute façon, ouais.
Moi ici, le support physique, voilà, il y a un public pour ça aussi. Bon, c'est pas le public principal, mais je pense que dans une seconde étape, c'est quelque chose qui est bien de faire quand même pour les gens qui, pour respecter les gens qui n'écoutent que sur du support physique, par exemple, et pour donner une chance aussi, ou même de servir comme goodies, parce qu'il y a des gens qui peut-être, ils achètent les vinyles, même s'ils n'ont pas de vinyle ou n'écoutent pas vraiment sur le vinyle, mais ils achètent pour l'objet. Donc pour moi, c'est complémentaire au streaming. Bon, malheureusement, c'est le marché principal, c'est du streaming. Puis c'est plus simple, entre guillemets, à gérer comme distribution. Et en tout cas, il y a beaucoup plus d'options pour ça, parce que vraiment, tout le marché actuel est axé là-dessus. Maintenant, je pense qu'en deuxième étape, ça peut être bien, effectivement, de fournir du support physique en complément pour les personnes que ça intéresse. Donc, ne pas se fermer des portes.
C'est ça. Effectivement, moi, j'avais proposé sur mon premier EP, On to the Past, les deux. C'est-à-dire que j'avais directement... publié sur des plateformes en streaming, puis partager ma musique sur Bandcamp, on en reparlera, et puis éditer un vinyle. Donc j'avais essayé une plateforme. Alors c'était plus pour tester, mais non, c'est disponible, quoi. C'est-à-dire que si on souhaite, on peut obtenir, en tout cas sur ce support physique-là. J'en ai pas choisi d'autres, pas de CD, pas de cassette, parce que, en fait, pour des raisons simples, que je n'ai plus de lecteur CD chez moi. Et je n'ai plus de lecteur cassette non plus. Par contre, j'ai encore une platine vinyle. Voilà. Et donc, je peux effectivement l'écouter chez moi. Et puis, c'est un support qui, je pense, est un peu plus répandu encore que les deux autres.
Je pense que la cassette, oui, à part au Japon ou des pays comme ça, je pense que c'est pas très utilisé. Et en plus, de toute façon, la qualité en elle-même, je crois qu'il y a des limitations techniques. Je pense que la qualité, vu que c'est des bandes magnétiques, je crois pas que la qualité, elle est optimisée. Tandis qu'un CD, tu peux toujours mettre de la qualité dessus, ça y a pas de problème. Et un vinyle, ça reste comme, il y a juste milieu, puis ça a son petit caractère, donc. Je pense que la cassette, c'est encore plus niche, quoi. Dans les supports physiques, c'est la niche de la niche, donc.
Ouais, comme les cassettes utilisent aussi, c'est un support magnétique, il ne se conserve pas bien avec le temps.
Oui,
le vinyle se conserve mieux parce que c'est un support dur,
mais il s'use au fur et à mesure des utilisations. Donc ça, c'est un petit peu différent. Donc c'est plus effectivement un support que tu vas garder comme collection et écouter de temps en temps jusqu'à ce que, je dirais pas qu'il soit plus écoutable, mais qu'il soit vraiment très très usé. Mais il y a encore un fort marché de l'occasion. En tout cas, c'est comme ça que ma femme le consomme, le vinyle. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle cherche, c'est des vinyles plutôt vintage, pas des rééditions, pour vraiment avoir l'écoute ou le master, finalement, qui était disponible à l'époque, comment l'artiste l'entendait, quoi. Et pas les rééditions, les masterings modernes qui sont peut-être un peu différents, finalement, hein, qui changent un peu l'écoute qu'il y avait à l'époque. Puis il y a toujours un peu ce grain, ce petit craquement que... Bah, qui apparemment fait son charme. Alors tu l'as entendu, c'est pas forcément mon avis, mais voilà, moi je préfère un son bien clean. J'ai été early adopteur du MP3 à l'époque où tu devais encore le faire en ligne de commande, le ripping. Donc ouais, j'étais assez fervent de cette technologie-là. Très bien. Du coup, avant de parler de ce que ça peut rapporter tout ça pour un artiste, on parle de distributeur. Voilà, distributeur. Ah, encore un intermédiaire. Combien ça va me coûter cette histoire ? C'est quoi la magouille derrière tout ça ? Bon, alors moi, une première surprise que j'ai eue, c'est que c'est pas si cher que ça, pour ce que ça fait.
C'est vrai.
Et au final, on continue encore à toucher 100% des royalties. Ça, ça me paraissait très bizarre, mais je pense qu'il y a une telle concurrence autour de ça qu'au final, voilà, eux, ce qui les importe, ces distributeurs, c'est au moins que tu payes un abonnement de type annuel ou mensuel. Et que finalement, tu sois captif un peu de leur plateforme, un minimum, et qu'au final, ben, les royalties, bon, ben, s'en passera. Mais l'abonnement, le service est un peu maître dans ces plateformes-là. Alors, j'en avais abordé quelques-uns avant. Le plus connu étant DistroKid. Beaucoup qui se disent, j'ai envie d'aller sur Spotify, seront souvent orientés vers DistroKid. Pourquoi DistroKid et Spotify, Linvé ?
Aucune idée.
Bah parce que DistroKid appartient à Spotify.
D'accord.
En tout cas, en partie. Voilà.
Et ils ont peut-être des parts ou quoi ?
Pardon ?
Ils ont des parts.
Ils ont des parts, ouais. Ce qui est un peu controversé d'ailleurs, parce que en final, on se rend compte que autant, bah, en fait, Spotify, en ayant le plus gros distributeur finalement sur le marché, bah, même si distribuer sa musique sur Spotify, c'est eux qui te rétribuent, on va dire. Spotify, bah, ils touchent quand même encore quelque chose de toi en tant que si tu passes par DistroKid. Quoi. D'accord. Donc, ils te taxent un petit peu via DistroKid et puis par derrière, ils te payent, ils te rémunèrent avec ta musique, mais on le sait, c'est pas un secret. Spotify, au niveau rémunération, c'est pas ça non plus, même s'ils le maintiennent, qu'ils soutiennent des artistes, etc. En tout cas, il y a beaucoup de controverses autour de ça. Dû à cette controverse, moi, j'évite DistroKid. Tout simplement, parce que j'ai pas envie de soutenir spécifiquement Spotify, même si c'est ma plus grande source d'écoute actuellement. Voilà, en tout cas, DistroKid, $22.99 par an. On peut de façon illimitée distribuer de la musique et ils ne prennent pas de commission, c'est-à-dire que 100% des royalties versées par les plateformes de streaming viennent à l'artiste. Alors du coup, DistroKid, ok, je prends DistroKid, je mets ma musique, donc ça envoie que sur Spotify alors, c'est ça ?
Ah non, un distributeur, le but c'est qu'il distribue sur toutes les autres plateformes. Donc on peut choisir des fois, mais voilà, même s'il appartient à Spotify, parce que j'imagine que c'est Spotify qui essaye d'être présent un peu à tous les niveaux, parce que voilà, ça reste une entreprise et ils veulent être présents partout, je pense. Et diversifient leur activité, mais non, un distributeur, son rôle, parce que voilà, ça aussi, c'est la petite mention que je voulais rajouter, un distributeur, son rôle, c'est de distribuer la musique donc sur toutes les plateformes possibles, en général dans le catalogue avec les magasins avec lesquels ils sont partenaires dans leur catalogue. Mais voilà, on n'a plus besoin, contrairement à l'époque, de devoir forcément passer par un label pour pouvoir distribuer sa musique. Donc maintenant, ici, on peut le faire soi-même en direct, en passant via un distributeur, en direct. En tout cas, sans autre intervenant que notre distributeur que nous, on a choisi. Donc, voilà. Mais effectivement, non, un distributeur, a priori, il va essayer de, vu comme tu dis aussi la concurrence, il va essayer de le mettre à disposition sur le plus de plateformes possibles. Donc, même des plateformes qu'on ne connaît pas forcément. comme il y a par exemple il y a Boomplay en Afrique, il y a Angami en Inde, je crois. Donc enfin voilà, c'est il y a pas que Spotify, que Apple Music, il y a pas Amazon Music, donc il y a plein de magasins et le but c'est d'avoir sa musique partout pour être le plus présent possible et que personne ne soit privé de notre musique.
Alors apparemment DistroKid enverrait sur plus de 150 plateformes. Alors dans les faits, c'est souvent plus que 150, mais ils en listent 150. Moi, dans les faits, j'avais vu que certaines plateformes se basent sur d'autres plateformes pour récupérer leur catalogue.
Voilà. Bah,
Ouais. Des fois, tu vas avoir une liste de distributeurs qui est présentée par DistroKid, et puis en fait, en réalité, il y en a beaucoup plus qui sont tentaculairement parlant derrière d'autres distributeurs, enfin d'autres plateformes de streaming.
Bah, des fois, c'est des catalogues aussi, parce que moi, j'avais fait le comparatif en vérifiant vraiment les liens que j'obtenais chez les différents distributeurs. J'avais vu des grosses différences et en fait, bon, déjà, j'en ai aucun qui où tu as 150 liens. Des fois, ils te disent oui, mais il y a aussi des partenaires, il y a des catalogues, enfin, des sociétés qui ne font pas du streaming en soi, mais qui font de la synchro, donc qui proposent de la musique pour les films ou autres. Donc, en vrai, on n'a pas forcément 150 plateformes. Et des fois, j'ai vu des grosses différences. Comment j'ai pu tester, c'est que selon un distributeur à l'autre, c'est qu'il y en avait, en fait, il y avait juste 25 plateformes de streaming dans les faits sur lesquelles étaient disponibles. Et puis, il y en avait d'autres, on avait quand même le triple, plutôt, tu en avais, voire même carrément 85 plateformes de streaming où on pouvait récupérer les liens. Donc, en fait, c'est un peu disparate. Maintenant, ça dépend aussi du type de marché qu'on veut viser. Si on reste en mode, je vise l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, et voilà, de toute façon, tant que c'est sur Amazon, YouTube Music, Spotify et le reste, on a déjà l'essentiel du marché, quoi. Donc voilà. Mais oui, il faut toujours regarder, c'est 150. Pour moi, c'est un peu argument commercial, parce qu'en fait, tu n'as jamais vraiment 150 plateformes en vrai derrière. Donc peu importe le distributeur.
D'accord. Effectivement. Donc, en gros, je prends ma musique, je la mets sur DistroKid. DistroKid va l'analyser un petit peu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu sur la plateforme que j'utilise, qui est Lander, mais il l'analyse un petit peu et regarde si la qualité convient. Et puis, va proposer de la diffuser. En tout cas, va te demander un certain nombre de détails, comme le titre, la pochette, qui est-ce qui l'a réalisé, qui chante dessus, qui a composé...
les crédits.
Tous les crédits, c'est-à-dire autant qui a composé la musique, qui a chanté dessus, qui a écrit les textes, etc. Parce que c'est des détails au niveau des droits d'auteur qui sont importants. Est-ce que tu as fait une collaboration? Est-ce que y a plusieurs artistes qui étaient dessus, etc. Donc tu donnes tous ces détails. Et à la fin, il te génère un code. Et puis, en fait, ce code va servir aussi à identifier auprès des autres plateformes ton morceau. Et que si celui-là est distribué, etc., écouter aussi dans des endroits publics, etc. Il va aussi servir à te rétribuer tes droits d'auteur, etc. Et l'idée, c'est que c'est cette plateforme de distribution qui va s'occuper effectivement de dispatcher avec toutes les bonnes informations. Et si un jour, tu as besoin de corriger une information, c'est même ce distributeur-là qui va faire le boulot. Alors, effectivement, on s'en doute, derrière, c'est tout automatisé. Il y a très peu d'intervention humaine derrière ces plateformes. Il y a un support. On peut interroger et puis qui fait intervenir des fois des IA, mais des fois aussi des humains qui vont corriger ou peut-être dire « Ok, on a vu que sur cette plateforme-là, il y avait un problème, merci de le corriger, etc. etc. » Donc, c'est un peu des plateformes qui permettent d'automatiser l'envoi et la standardisation aussi de l'envoi vers toutes ces plateformes de streaming. Voilà. Ouais. Donc, on parlait de DistroKid. Maintenant, j'aimerais parler de Lander. Donc, Lander, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est le numéro 2, mais il doit pas être loin de ça. Lui, il commence à partir de 19 euros par an pour avoir de l'illimité. Comment je suis venu à Lander? Moi, je suis venu à Lander parce que eux, ce qu'ils proposaient aussi, peut-être que maintenant beaucoup plus de plateformes le proposent, mais Lander le proposait très tôt. Ils proposent de faire du mastering, en fait. C'est-à-dire que tu envoies ta track et eux, ils vont faire cette petite touche de mastering derrière. Du coup, si vous voulez savoir ce que c'est le mastering, c'est l'épisode d'avant, voilà. Et il va automatiser un peu ça. Il va permettre un peu d'écouter avant, après, de faire un peu quelques ajustements. Et il te permet donc de faire ça. On va dire du mastering prêt pour les plateformes de streaming, entre guillemets. Voilà. Il va pas plus loin que ça. Donc au début, je me suis dit, OK, je vais me débarrasser de cette étape-là et faire confiance à un logiciel. Je crois que je l'ai jamais utilisé au final, parce que j'ai finalement appris à le faire par moi-même. Et je crois que le résultat était pas si bon que ça, au final. Mais du coup, je suis resté avec cette plateforme-là parce que je la trouvais pratique et qu'elle me suffisait et que c'était finalement pas DistroKid. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. J'étais aussi très, comment dire, impressionné par leur réactivité. En tout cas, quand je publie une track en accès direct, c'est-à-dire que de ma track, au moment où je la pose et que je dis merci de la publier, au bout de 2-3 jours, elle était sur les plateformes. Ouais. Ça, je trouvais ça assez impressionnant. Même si maintenant, j'utilise plus non plus cette fonction, puisque je préfère attendre 15 jours, le temps que les plateformes récupèrent mes tracks et que je puisse faire du pré-save et de la pré-promo auprès de ces mêmes plateformes-là. C'est des techniques qui permettent d'envoyer le morceau donc avant. Et puis, comme ces plateformes le récupèrent au bout de 2-3 jours, ça débloque des fonctionnalités, comme sur Spotify ou d'autres. Je sais pas, je crois qu'il y a Amazon où tu peux, quand tu envoies ta track 15 jours à l'avance, en fait, tu peux...
C'est le pitching.
Voilà, il te permet de le pitcher. C'est-à-dire, il te met juste un petit wizard dans lequel tu expliques ta musique. Et puis, eux, ils l'envoient aux curateurs des playlists génériques que eux ils proposent sur leur plateforme. Puis si elle est prise, tu te retrouves dans une super playlist qui est souvent mieux mise en avant sur leur propre plateforme. Voilà. Je crois que Spotify le fait aussi, mais il te permet pas de le faire directement, mais il le fait indirectement.
Si, normalement c'est pas lié au distributeur, c'est si tu as enregistré ton accès sur la partie artiste de ouais. plateforme de streaming. Donc, c'est un peu indépendant. Et voilà, c'est qu'en fait, tu as des fonctionnalités en plus. Quand tu vas sur Spotify pour artiste ou Amazon Music pour artiste, etc., c'est que tu peux customiser un peu plus en détail ta bio, tu peux faire un pitch pour ta musique, effectivement, pour qu'elle soit prise dans les playlists des curateurs, etc. Donc, mais ça, c'est différent des distributeurs. C'est les accès pour artistes qui sont... que tu peux demander directement à la plateforme de streaming une fois que tu as de la musique qui est publiée dessus. Donc, tu réclames ton profil, en fait. Tu dis que ça, c'est mon profil. Tu envoies 2-3 preuves en disant que c'est bien ton profil à toi, que c'est pas le profil d'un autre artiste. Et après, il te donne les accès. Et en gros, tu peux customiser plus en détail et faire plusieurs choses dessus. Bon, après, ça a des intérêts plus ou moins limités. Il y a certaines plateformes, tu peux aller un peu plus loin, avoir des analytics plus poussées ou autres. Mais souvent, en général, ça se résume à changer ta photo de profil ou ta bio. Donc voilà. Et pour deux trois distributeurs, donc voilà, Amazon ou autre, tu peux faire le pitching en fait. Donc voilà, si ta musique elle est release dans 15 jours avant, tu peux proposer. Normalement, j'ai été fait une petite liste avec les plateformes en question. Je vais voir si je les retrouve après. Mais en gros, il y en a pas tant que ça où tu peux faire du pitching comme ça. Donc
ok. Alors après, je viens de voir aussi ouais, sur effectivement Spotify, t'as le pitching. D'ailleurs, il faut que je le fasse sur ma prochaine track.
donc moi dans celle que j'ai relevée, t'as Bandcamp si c'est 8 semaines avant la release, t'as Spotify c'est 14 jours minimum avant la release, Amazon c'est pareil, c'est 14 jours avant la release, en Grammy c'est 3 fois par an, mais là c'est un peu particulier, c'est seulement pour les tracks qui sont déjà sortis. Donc, AudioMac, c'est pareil, c'est 4 semaines après l'upload. Et voilà.
Bandcamp, tu disais ?
Bandcamp, c'est 8 semaines avant.
8 semaines avant une release ?
Ah, ouais. C'est bon. Je crois que c'est que. En plus, c'est réservé que pour les albums, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pas pour le single. Donc, oui, c'est pour ça. Donc, parce que quand c'est un album, tu vas faire une promo plus chargée que pour un single. Mais voilà, donc en gros, c'est un peu la liste des plateformes où on peut faire un pitch. Donc voilà, comme on a dit, c'est d'écrire son morceau en espérant que les plateformes les prennent dans leur playlist officielle.
Ouais.
Mais voilà, c'est... Bon, ça, à voir si ça marche ou pas. Mais voilà, je pense que ça marche surtout. Il y a déjà une présélection qui est faite pour les artistes qui sont déjà un certain nombre d'écoutes, etc.
Très bien. Donc, Lander propose aussi, j'en parle vite fait parce que moi, je le connais en long et en large, mais il propose plein d'autres services, énormément de plugins aussi que tu peux télécharger, des VST, des licences de VST, que je me suis retrouvé à utiliser au final. Ça, c'était vraiment top. Mais ça, c'est pour un plan un peu plus cher. Je crois que c'est $100 par an. Donc attention, c'est pas pour $19 par an. Et aussi des samples. Donc ils ont une base de samples un peu qui est assez intéressante, où ils te donnent des crédits et puis tu peux télécharger les samples. Et je me suis aussi vu à l'utiliser pas mal pour des samples de voix, pour des samples d'instru et des choses comme ça. Pourquoi j'utilise ça plutôt que qu'un autre, c'est que déjà les samples sont de bonne qualité et puis au final t'es obligé d'être abonné à Lander pour avoir accès à cette base de samples, enfin plus ou moins. Et donc je pense qu'elle était un peu moins utilisée que Splice par exemple, qui je pense utilise de, enfin tout le monde utilise Splice quoi. Donc je préférais utiliser des samples un peu plus confidentiels ou en tout cas autour d'un distributeur où on va pas forcément pour aller chercher des samples. Voilà. Et puis ça me convenait, c'était gratuit, enfin c'était compris dans mon abonnement. Voilà. CD Baby, toi tu as eu l'expérience de CD Baby ou t'as juste un peu regardé? Ok. Je crois qu'eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils te permettent de payer aussi. Bah, t'as juste un track à sortir ou à distribuer, pouf, tu peux payer pour un track. Il me semble, hein, c'est juste. Voilà. Par contre, ils prennent des commissions aussi, eux, derrière, en fait, en fonction de leur abonnement. C'est aussi un distributeur, je crois, assez populaire. En tout cas, voilà.
Donc, oui, courage à aller voir. C'est un des plus populaires. Oui.
Aussi, bien sûr. TuneCore, là, t'as eu.
Oui, j'avais essayé. Bon, après, j'ai rien de mauvais à dire sur eux. Un peu peut-être barebone, donc enfin un peu, comment dire, très simpliste dans le sens que, bon, en fait, ça fait ce que ça fait, quoi. C'est un distributeur, mais t'as pas de trucs derrière, t'as pas vraiment des trucs en plus par rapport aux autres ou des ressources comme toi t'as eu avec Lander ou autre. Donc, ça fait le boulot, mais. Bon, après, par contre, quand même, un truc à noter, ça, si on fait une recherche sur Google, vous allez voir qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. TuneCore, c'est un peu l'entreprise classique qui ne te laisse pas partir facilement. Donc, en gros, si tu veux te désinscrire et annuler ton abonnement, il faut faire plein de démarches, etc. Enfin, c'est très compliqué. Et ça, je ne trouve pas ça très positif, en fait, comme tactique.
Alors, pour préciser, quand on publie notre musique par un distributeur sur des plateformes, la musique qui est sur les plateformes de streaming, c'est la nôtre, elle nous appartient, aucun souci là derrière. Par oui, contre, là où le distributeur nous tient un petit peu par, je dirais le portefeuille, c'est que en fait, c'est aussi par le distributeur que viennent les royalties. D'accord ? Les royalties d'écoute sont aussi elles distribuées au distributeur qui nous ont, même s'il ne prend aucune commission pour la plupart. C'est par ce distributeur-là qu'on va aller retirer l'argent, finalement. Ou peut-être il y a un virement directement sur le compte, etc. Moi, j'ai par exemple l'exemple de Lander. Lander, lui, si tu publies par eux, mais après que tu arrêtes tu arrêtes l'abonnement, en fait, tu continues à pouvoir toucher tes royalties, mais ils prennent une commission cette fois-ci. Je ne sais plus de combien c'est une dizaine, quinzaine de pourcents, parce que tu n'es pas abonné chez eux, mais voilà. Donc, c'est un peu de bonne guerre, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est pas parce que tu te désinscris d'un distributeur que tout d'un coup, les royalties de 150 plateformes vont savoir où redistribuer l'argent, à savoir chez toi. Tu vois, ils vont se dire, tiens, je vais mettre tes coordonnées bancaires dans 150 plateformes et ça va directement aller chez toi. En fait, c'est aussi ça un petit peu ce que fait un distributeur et ce que exigent certaines plateformes, surtout les très grosses, c'est de se dire, mais moi, j'ai pas envie d'avoir 3 millions d'artistes et 3 millions de coordonnées bancaires à gérer pour rétribuer les 1 ou 2 dollars que je donne de temps en temps. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent un distributeur pour ces transactions-là. Et aussi, en cas de problème avec une musique, par exemple, ou cette musique, tu prends un sample d'un autre musicien, ou s'il y a des conflits de royalties ou des conflits de droits d'auteur, pareil, ils n'ont pas envie d'aller s'adresser à toi directement, etc. Ils vont passer par des distributeurs qui, eux, vont faire la police. Voilà. Donc, c'est ça que t'offre le distributeur. C'est, il t'offre l'automatisation de la distribution. Il t'offre aussi le fait de récupérer les royalties pour toi et te les reverser. Mais ils offrent aussi à la plateforme une aisance de travail. C'est-à-dire, eux, ils ont juste à reverser à un compte du distributeur, et s'il y a le moindre problème, il le déclare au distributeur, et c'est le distributeur qui fait la police. Voilà. Ça, c'était un... il me semble que c'est ça, hein.
En général, c'est plutôt le distributeur qui demande... c'est un patron de streaming qui demande au distributeur de faire la police. Bon, et le problème, c'est que le distributeur... Oui, mais en fait, ça dépend des distributeurs. Il y en a qui s'y plient et d'autres qui sont pas très d'accord avec ça.
Oui, ça c'est.
Donc il y a et ça c'est les politiques sont les chaque plateforme, ils ont des politiques différentes. Il y en a ils sont plutôt on va protéger nos artistes et puis il y en a d'autres vu que c'est Spotify qui nous demande ça, on va juste le faire quoi. Donc voilà, ça dépend un peu des plateformes aussi.
Tout à fait. Donc TuneCore, après il y a Ditto Music. Alors Ditto Music, c'est sur celui-là que tu es actuellement, hein, c'est juste ?
C'est ça, oui.
Et il te plaît toujours ?
Oui, nickel, aucun problème. Ben, moi, voilà, moi personnellement, je l'ai choisi parce que c'est celui qui me permet d'avoir le plus de magasins en streaming. Donc, même dans en Afrique, puisque j'ai fait un peu de l'afro ou dans le Midwest, etc. Donc, voilà. Et puis après, c'est un des seuls qui permet, par exemple, bon, c'est une option payante en plus, mais c'est un des seuls qui te permet d'apparaître dans les charts officiels. Donc voilà, il y a ces deux petits trucs comme ça. Donc, mais voilà, moi je l'ai choisi personnellement ce qui me plaisait bien. Mais après, voilà, comme je pense qu'il faudra préciser, c'est que moi j'ai déjà essayé de regarder. Il n'y a pas de distributeur parfait en fait. Il y en a, ils ont tous des différences. Soit c'est les prix qui est différent, soit il y en a un qui propose du parrainage, d'autres pas. Soit il y en a qui prennent des royalties, d'autres non. Il y en a, ils n'ont pas le même nombre de plateformes de streaming à disposition. Il y en a qui te permettent d'avoir plusieurs artistes, d'autres il faut payer pour avoir d'autres projets. Enfin, c'est voilà. Et puis il y en a qui te permettent, il y en a qui ne retirent pas ta musique quand tu arrêtes l'abonnement. Il y en a que si. Il y en a, c'est des options en plus pour aller sur Beatport. Enfin, j'ai vraiment détaillé en détail et il n'y a pas de distributeur parfait. Donc je pense que pour moi, il n'y en a pas spécialement un à éviter, contrairement à ce que les gens disent parfois, parce que je crois qu'il y a des rumeurs parfois, des trucs de techno ou je ne sais pas quoi. Bon, je crois que c'était DistroKid ou c'était Baby qui ont eu des petits soucis de playlist qui étaient bottés à un moment. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y a une plateforme en particulier à éviter. Par contre, il faut plutôt regarder, moi, qu'est-ce que j'ai besoin dans la plateforme. Voilà, et voir si les options sont intéressantes, si le prix correspond. Donc, ça dépend un peu à
Si le
chacun.
support est correct aussi, t'as
Oui, voilà le support. Il y en a, ça prend une semaine d'avoir une réponse. Il y en a d'autres, c'est dans les 24 heures, tu as une réponse. Enfin, il y a vraiment plein de petites nuances. Donc, il faut regarder un peu les comparatifs actuels et aussi voir ce qu'on veut exactement. Maintenant, je pense pas que tu auras vraiment. Tu vas prendre un distributeur, tu vas dire, oh mon Dieu, j'ai fait une erreur. En plus, de toute façon, on peut changer de distributeur. Donc, aussi, ça, il faut le préciser. Donc, on peut migrer son ancien catalogue vers un nouveau distributeur. Donc, il faut pas trop s'inquiéter.
Ouais. Alors c'est un peu chiant, hein, c'est pas genre
Oui.
ah vous voulez changer? Vous voulez aller où? Bien, on envoie tout là-bas. Non, non, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Mais en
Mais à
gros,
mon...
faut quand même bien choisir au début par rapport à ses attentes à soi. Je sais que quand tu avais choisi plutôt Ditto Music, tu avais vraiment fait un travail de fond pour
Oui.
voir si la musique qui est publiée et ce que tu disais avant, c'est-à-dire tu as vérifié réellement les liens et même les plateformes. Et dans la réalité, Ditto Music a publié réellement sur même plus que 150 plateformes, ou en tout cas les vraies 150 plateformes qui sont soi-disant aussi sur Lander et DistroKid, mais en réalité, toi tu étais par exemple sur des plateformes que moi j'étais pas. Par exemple en
C'est
Corée
ça.
ou en Chine, etc. J'ai vérifié, alors que toi tu vérifiais toi de ton côté sur ces plateformes-là et que tu voyais bien ta musique, moi je suis allé voir sur ces mêmes plateformes. Et puis elle n'y était pas. Alors que, bon, Lander précisait pas que j'allais spécifiquement sur cette plateforme, mais on avait beaucoup moins, au final.
Oui, mais
Ditto
parce que
avait
ça,
l'air,
je dis
Ditto avait l'air
250.
beaucoup plus varié, en tout cas dans les plateformes qu'elle
Oui.
proposait. Et l'avantage d'être sur beaucoup plus de plateformes, c'est de se dire, bon, si ma musique prend à un endroit particulier géographique du monde, c'est tant mieux, quoi. Au moins, j'y suis.
C'est ça.
Maintenant, dans la réalité, si tu as plus de 150 plateformes sur lesquelles tu dois te débrouiller pour faire de la promo, tu t'en sors plus, quoi. Tu peux pas aller voir tous les mois les 150 plateformes pour voir ta progression, pour essayer de voir si tu peux booster ta pub. Enfin, voilà. À un moment donné, il faut quand même que tu te concentres sur l'une ou l'autre plateforme de streaming là où tu as ta core audience, on va dire, et en avoir 150, voilà. Moi, c'était un peu mon état d'esprit, me dire, bon, ok, moi, j'ai peut-être pas besoin d'être au Kyrgyzstan. Ça va, je vais me concentrer sur mon marché un petit peu
Oui,
ou
c'est
mes
ce que je disais aussi
fans.
tout à l'heure. Oui, mais ça dépend de nos priorités. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas
Exact.
un meilleur que l'autre. Et de toute façon, j'ai regardé, il n'y en a pas un qui a toutes les options. Donc,
Exact.
c'est moi j'ai choisi Ditto pour le nombre de plateformes et pour la possibilité d'être dans les charts. Maintenant, par exemple, Lander, un avantage qu'a Lander que toi t'as, t'as la fonction sur Spotify, t'as la fonction Discovery Mode, qui est une option de Spotify pour mettre en avant la musique. Donc voilà. Donc, il y a toujours une petite option qui manque chez un distributeur ou l'autre. Ils sont pas tous mis à niveau, on va dire. C'est vraiment assez disparate. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, oui, il faut faire un travail de, enfin, faut regarder un peu, se renseigner avant de choisir pour éviter les problèmes plus tard. Mais je pense que c'est le genre typique de truc, parce que moi, je suis passé par là aussi. J'ai regardé pas mal de comparatifs avant. C'est le genre de truc, en fait, même si, bon, tu vois que tu entends parler de certaines options ou autres. Bah, je pense que c'est le genre de truc, t'es obligé de tester par toi-même pour savoir ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Donc, comment dire ça, même si tu regardes avant, tu pourras te dire, ouais, ça m'intéresse comme option, etc. Puis au final, à l'usage, tu te dis, bon, finalement, c'est pas exactement ce que je souhaitais. Enfin, je sais pas. C'est, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que j'en ai essayé deux, trois, pour trouver celui qui me plaît vraiment. Et j'avais beau regarder les comparatifs, etc. Ben, c'est seulement à l'utilisation que tu vois, est-ce que tu aimes bien la plateforme? Est-ce que les services en plus qu'ils te proposent, ça t'intéresse vraiment? Tu vois, comme tu dis, Lander, il donne des cours, mais par exemple, ça pourrait ne pas être intéressant. Enfin, moi, j'ai vu les cours, ça a l'air d'être intéressant. Mais je veux dire, c'est un exemple. Tu peux dire, ah, je vais prendre ça pour les cours. Puis après, à l'usage, tu te rends compte que c'est pas top ou que tu t'en sers pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, les plateformes, bon, on peut guider un peu, mais voilà. Pour moi, ça reste quand même assez. Enfin, tu pourras jamais forcément faire le bon choix dès le début. Donc peut-être que tu changeras par après, une fois que tu auras plus affiné les besoins que tu as vraiment à l'usage. C'est mon point de vue à moi, en tout cas. C'est comme ça que je l'ai vécu.
Ouais. Pas de souci. Donc, on parlait, ouais, Lander, Ditto, TuneCore, tout ça. Ça, on a eu des expériences. DistroKid, aucun de nous deux a eu l'expérience. Hein, c'est juste.
Non.
OK. Ensuite, il y avait Symfonique. Et je crois que Symfonique, il se plaçait pas mal aussi au niveau du nombre de plateformes, je crois. Il est un peu dans le même registre que Ditto. Lui, il allait plus rechercher le nombre de plateformes sur lesquelles il pouvait se mettre. Tu l'avais essayé, toi, Symfonique, non ?
Non, j'ai essayé que Lander, TuneCore et Ditto, donc Symfonique. Ouais. J'ai hésité à y aller à la place de Ditto, mais...
C'est ça. Et eux, c'est 19$ aussi par an, comme Ditto. Ditto, tu payes 19$ par an, c'est ça ?
Oui.
OK. Pareil, ils ne prennent pas de commission, etc. Voilà. Et puis, SoundCloud, alors... beaucoup de gens vont connaître SoundCloud pour le fait qu'on peut y trouver des mix, des remixes. On peut y trouver des petites maquettes aussi d'artistes et des choses comme ça. Avant, c'était plus un endroit où effectivement un artiste posait sa musique et permettait librement, gratuitement d'écouter sa musique. C'est encore une plateforme qui permet de faire ça. C'était aussi une plateforme où on posait des podcasts à l'époque pour se dire, bon, bah, on va poser le podcast là-bas parce qu'on ne veut pas s'enfermer dans un Apple podcast ou un truc comme ça. On le posait là-bas et souvent, on était assez libre de pouvoir utiliser des samples de musique d'artistes, etc. Je me souviens que beaucoup de podcasts utilisaient un habillage avec de la musique d'artistes connus autour de leur podcast et la mettaient sur SoundCloud pour pas avoir de problème parce que c'était assez open bar.
Bah, c'était un peu le YouTube pour la musique en fait, ou tout ce qui était audio. Il y a des gens qui partageaient des livres audio, des podcasts, de la musique. Voilà. Et voilà, c'est un peu le YouTube de tout ce qui était l'audio.
Mais pour les artistes, SoundCloud, il te permet quand même des options, y compris des options de distribution. Alors, je crois que c'est vraiment l'option la plus faible que j'ai vue, en tout cas en nombre de plateformes qu'ils proposent.
Ça a commencé, je crois. Hein.
Ça va ?
Je crois que ce sont un de ceux qui y sont mis le plus tard, parce que par exemple, TuneCore, ça fait 20 ans que ça existe, je crois, ou même plus, alors que SoundCloud, je crois que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont lancé cette option-là.
Ouais.
Peut-être 2-3 ans, je sais pas.
Ouais, donc eux, bah, finalement, quand tu y poses ta musique et que tu veux commencer à... T'as pareil, t'as un profil un peu public où t'écoutes la musique et t'as un profil un peu fort artiste dans lequel bah, tu vas poser ta musique et tu vas commencer à avoir des notions de ok, alors c'est quoi le nom, c'est quoi la pochette, c'est quoi les artistes qui travaillent dessus, est-ce que t'as déjà généré un code et en fait tu commençais à avoir ce côté publication. Alors d'une part parce qu'en fait elle agit comme une plateforme de streaming, c'est-à-dire que tu peux monétiser ta musique dessus sous couvert d'un abonnement chez eux. Tu peux aussi un peu la mettre en avant avec certaines options, mais derrière, ils offrent aussi la distribution. Et comme je disais, pas sur beaucoup de plateformes. Actuellement, c'est Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, TikTok, Instagram, voilà, YouTube, Tidal, Pandora. Voilà.
Mais après, c'est un des moins chers, hein, je crois. Si tu prends juste l'option de distribution, je crois que c'est pas très cher. Hein.
C'est pas très cher.
Mais bon, c'est vrai comparé aux autres où c'est à 20$ sur l'année, 20$ sur l'année, c'est pas non plus la mer à boire, donc...
Alors, voilà, pas très cher, je sais pas. En tout cas, ici, il y a SoundCloud Artist Pro, t'en as pour 100 balles à l'année.
Ouais, ça c'est autre chose.
Voilà. Et t'as pas beaucoup... Ouais, mais t'as pas beaucoup de plateformes. Voilà, et puis je crois que c'est à peu près... Je sais plus si c'était à peu près... Il y a Artist et Artist Pro, hein, il me semble.
Ouais, c'est ça. T'en as un qui coûte 3€, l'autre 10€.
3€ par mois, voilà. Ça fait 40 balles à l'année. Ben, 40 balles à l'année pour 5-6 plateformes. Je sais pas si c'est le plus avantageux. Bon, après, SoundCloud, c'est autre chose. SoundCloud, c'est, il y a plus un aspect communautaire que juste les gens qui viennent dessus pour écouter de la musique random. Il y a plus un aspect où tu vas suivre ton artiste favori qui va peut-être y poser aussi un peu ce qu'il veut. Il peut y poser sa propre musique, mais aussi des remixes et des choses comme ça. Et comme tu le disais, c'est un peu un YouTube de la musique. Ben oui, c'est un peu un côté où t'as encore pas mal de liberté. Moi, si je commence à poser un remix d'un artiste connu, mais à ma sauce, et que je la pose sur Spotify, via mon distributeur, bah déjà, c'est mort, quoi. Déjà, je vais tomber si j'ai pas l'accord de l'artiste en question. En fait, voilà, je vais pas pouvoir y poser ma musique. Sur YouTube, je pourrais, mais YouTube Music, pas, par exemple. Voilà. Et pareil, que ça soit YouTube, mais maintenant aussi SoundCloud, ils ont maintenant des moteurs qui permettent aussi de voir si tu utilises du contenu d'autres artistes. Hein. Les Content ID et compagnie. Moi, je le vois. Moi, c'est assez drôle quand je pose ma musique sur SoundCloud. Il y a même pas deux secondes avant que SoundCloud il dit attention, votre musique elle est sous copyright de vous-même. Ok, merci. Donc est-ce que vous voulez faire un claim? Oui. Alors dans le claim j'écris alors ben vu que c'est ma musique j'aimerais bien que vous la activiez s'il vous plaît. Et puis c'est après au bout de je crois une journée c'est activé. Mais en fait ce qui se passe c'est comme mon distributeur donc je la pose d'abord sur mon distributeur qui elle l'envoie à différentes plateformes. Ces différentes plateformes la process, et je pense que il y a un genre de, un content ID un peu générique que SoundCloud utilise eux sur leur plateforme à eux. Et quand moi je pose ma musique sur SoundCloud parce que mes distributeurs ne posent pas sur SoundCloud, ça j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Tu sais, toi, pourquoi la majorité des distributeurs, comme Blender, DistroKid, etc., ils envoient pas à SoundCloud? Peut-être SoundCloud fait pas avec, hein, j'imagine.
Si, il y en a, bah, par exemple, dis-toi, il le fait. Ah. Non, parce qu'en fait, parce que c'est normal, SoundCloud, c'est un peu différent. C'est SoundCloud, à la base, c'était une plateforme où tu pouvais déjà uploader directement.
Oui, c'est ça.
Alors que par exemple, Spotify n'a jamais permis ça directement aux artistes. Oui. Historiquement, c'est une plateforme où, de streaming officielle où c'était les labels ou les distributeurs qui publiaient la musique dessus. Donc c'est pour ça. Maintenant, il y en a, comme dit Tho, ils le permettent et voilà, il y a certaines plateformes en direct comme AudioMac, SoundCloud ou d'autres qui à la base fonctionnent en direct avec les utilisateurs, mais que voilà, des distributeurs peuvent publier quand même, ça génère un compte SoundCloud générique comme sur les autres plateformes et alors bah t'as pas besoin de l'uploader toi-même. Donc moi par exemple avec Ditto, j'ai l'option pour ça et c'est le seul d'ailleurs que j'ai vu qui me proposait d'uploader sur SoundCloud, AudioMac. Et les autres plateformes du genre, TuneFM et compagnie. Donc voilà, ça dépend un peu. Mais historiquement, c'est parce que SoundCloud, à la base, c'est plutôt... à la base, tu ne pouvais faire que ça, d'ailleurs. C'est envoyé... C'est toi qui devais y aller soi-même, quoi. C'était une plateforme en direct pour les artistes, quoi.
Donc voilà.
C'était un peu le côté indépendant. C'était un peu là où, historiquement aussi, quand les gens, il n'y avait pas de label qui voulaient mettre ou qui voulaient partager leur musique, même des musiques pas forcément prises au sérieux ou des petits podcasts sans prétention, etc. Enfin, c'était un peu vraiment le YouTube, donc tu pouvais trouver de tout, n'importe quoi. C'est comme tu pourrais trouver des trucs de qualité, comme des gens qui mettent des trucs plus pour le fun. Et en fait, voilà, t'avais tout le monde qui mettait un peu tout et n'importe quoi dessus, donc...
Voire même des tracks qu'ils ont rippés d'un CD, puis ils posaient l'album dessus, quoi, des trucs comme ça. Ouais, c'était un peu le Far West, ouais. Alors, effectivement, maintenant, ils utilisent des filtres pour voir si t'as pas usurpé la musique de quelqu'un d'autre sans leur autorisation. Donc, c'est assez efficace et j'imagine qu'elle se base sur un moteur assez transversal entre les autres plateformes parce que l'exemple que je viens de citer avant, c'était je posais mon morceau est même pas encore sorti sur les plateformes, mais les plateformes l'ont reçu. Et quand moi j'y pose ma musique sur SoundCloud, elle est même pas censée savoir que ma musique existe, qu'elle n'existe nulle part. Elle a compris que c'était. Et en plus, elle me montre en tant qu'artiste de la musique que je suis censé, enfin que j'ai usurpé. Donc il y a un moteur derrière, je pense. Alors, peut-être c'est les
comme YouTube, maintenant, etc. Ils détectent.
Peut-être c'est le Content ID. Ils utilisent le moteur du Content ID sous licence. Je sais pas. Mais en tout cas, faire attention avec ça. Voilà. Donc eux, ils te permettent de distribuer, ils te permettent d'avoir une certaine monétisation. Mais en fait, eux, ils agissent un peu comme leur propre distributeur. Donc malheureusement, tu peux pas, à part avec Ditto, tu peux pas, en tout cas, les autres plateformes, ce que j'ai vu, tu peux pas le contrôler depuis ta plateforme de distribution. Toi, quand tu envoies depuis Ditto à SoundCloud, si tu as des revenus via SoundCloud, ils arrivent chez Ditto ou c'est sur SoundCloud?
Normalement, il devrait retourner chez Ditto, mais j'ai pas testé. Hein. Vu que j'ai déjà son cloud d'avant.
D'accord. Voilà. Donc, t'as pas écrasé, quoi, finalement.
Non, non.
D'accord.
Ça en fait, sans faire exprès, je l'avais pas vu parce que j'avais pareil pour Audiomac, j'étais déjà dessus avant. Et j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu qu'il y avait Audiomac dans les stores disponibles. Et donc, du coup, je l'ai laissé cocher. Et en envoyant, ils m'ont créé une chaîne doublon, en fait. D'accord. Parce qu'ils avaient pas moyen de savoir que ma chaîne était déjà existante. Tu vois, j'étais pas relié. Il y a pas de communication entre Audiomac et mon distributeur. Donc, mon distributeur, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une chaîne générique Audiomac. Et j'ai dû redemander le contact et le support pour qu'il me la supprime. Mmh. Donc, par défaut, voilà, ils te refont une nouvelle chaîne. Maintenant, oui, le fonctionnement est pareil comme pour les autres plateformes, c'est qu'ils récupèrent les royalties pour toi.
Ok. Donc, bon deal, quoi. Bon deal.
Parce que c'est comme en gamie, etc. Tu peux avoir accès à des stats plus détaillés que ton distributeur. Donc, si tu as créé ton accès pour artiste, mais tu n'as pas forcément. Mais tu ne peux pas dire, tiens, donnez-moi l'argent à moi, directement à moi, au lieu de. Tu ne peux pas retirer l'argent comme ça. Donc, c'est quand même ton distributeur qui fait l'agrégation pour la distribution et pour la collecte des royalties. Mais tu as accès à des stats, mais tu ne peux pas. Je ne pense pas que tu peux court-circuiter le chemin que font les royalties.
Ouais. Ouais. Comme tu disais.
Est-ce qu'il y aura un intérêt? Parce que soit à partir du moment où le distributeur ne prend pas de royalties dessus, est-ce qu'il y aura un intérêt de toute façon?
Ouais.
Donc autant avoir tout centralisé.
Tout à fait. Et puis ça, c'est beaucoup moins de travail aussi pour les plateformes de streaming qui n'ont pas besoin de gérer 50 000 RIB. On va dire ça comme ça.
Ouais.
Dernière plateforme, mais pas des moindres, c'est Bandcamp. Voilà, Bandcamp, qui historiquement, cette plateforme qui permet une rétribution directe, et je dirais, où tu peux encore acheter digitalement la musique. Alors, qui fait ça encore de nos jours, d'acheter à un prix un peu plus élevé et sans abonnement de la musique? Ah, ça se fait de moins en moins, certes, mais il y a encore pas mal de fans de ce mode de distribution. Et surtout avec toutes les controverses qu'on a actuellement avec Spotify, etc., j'ai l'impression qu'ils ont une carte à jouer autour de ça aussi, Bandcamp. J'espère qu'ils vont la prendre. Parce que on s'en rend compte, en tout cas en tant que consommateur, que ces plateformes de streaming rétribuent jamais assez suffisamment l'artiste, ou alors donnent beaucoup trop aux très très gros artistes, et beaucoup d'artistes émergents crèvent la dalle, quoi, finalement, sur ces plateformes. Hein. On va vous expliquer un petit peu ce qui est la rétribution streaming après, mais en tout cas, Bandcamp, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de prendre ton fichier .wav, hein, vraiment, ton fichier en meilleure qualité possible, tu la poses là-dessus, tu mets aussi, pareil, ta pochette, tu mets toutes tes informations, etc. Mais il te génère un espèce de store dans lequel tu peux dire, si tu as envie d'écouter ma musique localement chez toi, sur ton lecteur MP3, sur ta chaîne IFI haut de gamme avec un lecteur numérique, tu peux acheter avec la meilleure qualité possible la track et soutenir directement l'artiste. Alors, Bandcamp, c'est gratuit à l'inscription. Moi, j'ai jamais rien eu à payer chez eux. Mmh. Par contre, ils te prennent une commission de 10 à 15%. 15% sur le digital, 10% sur le physique, puisque tu peux aussi y mettre un store. Tu peux y vendre du merch.
C'est ça.
Et quand je parle de merch, c'est casquette, t-shirt, oui, mais aussi un vinyle, une cassette, un CD, bien entendu. Donc, tu peux aussi l'utiliser comme un support de boutique. En schématisant, tu es par exemple un groupe de punk rock qui fait la tournée de certaines petites, je sais pas, de petites scènes locales ou régionales ou nationales. Et effectivement, tu viens sur un festival, tu as ton petit stand avec les t-shirts et les casquettes, peut-être des CD, mais qui va encore avoir, qui va encore pouvoir lire ce CD, tu vois. Donc, tu peux aussi y vendre, ou en tout cas y proposer, venez scanner le QR code et soutenez-nous à acheter de façon digitale notre musique. Et une fois que tu l'as acheté de façon digitale, Bandcamp te permet de télécharger un lecteur sur ton smartphone et de la lire, comme un Spotify.
Et d'avoir le fichier
le fichier MP3, bien sûr, ou WAV ou FLAC, que tu peux télécharger sur ton lecteur local. Il y a aussi des fonctionnalités. Alors, tu me disais, chez Spotify, c'est le cas, j'ai jamais testé, mais en tout cas, YouTube Music, moi, j'ai toujours utilisé cette fonction. C'est quand j'achète la musique d'un artiste, je la télécharge effectivement dans un bon format, en général FLAC, et ensuite, je la déplace dans mon YouTube Music. Et en fait, elle s'inscrit dans le catalogue personnel de YouTube, de mon YouTube à moi. Et j'ai en fait ce format numérique que j'ai acheté. Mais au final, je sais que j'ai rétribué directement l'artiste, mais je vais pouvoir mixer le son que j'ai récupéré comme ça avec d'autres morceaux que j'écoute sur la plateforme YouTube Music.
C'est ça.
Ça me permet de garder le côté pratique de ma musique, mais en même temps d'avoir soutenu directement l'artiste. Voilà. C'est quelques manipulations, mais très honnêtement, moi, ce qui m'est arrivé beaucoup, c'est qu'à une époque, il y avait des musiques, c'est de moins en moins le cas, hein, mais il y avait beaucoup de musiques que je trouvais pas sur les plateformes de streaming. Et si je les voulais à tout prix, ben, je les achetais et je les posais comme ça manuellement. Après, au fur et à mesure du temps, toutes ces plateformes-là ont reçu un peu tous les tracks de tous ces artistes-là. Et après, ça s'est un peu mélangé, quoi.
Bah, il y en a plein qui ceux qui rippaient les CD, par exemple, à l'époque. Mm-hmm. Il y en a plein qui ont des collections énormes de musique en fichiers MP3 ou FLAC ou WAV. Et donc, et ça les intéresse toujours de pouvoir continuer à acheter la musique comme ça, d'avoir le fichier d'origine et pas de devoir soit te télécharger également ou d'avoir un rip dégueulasse de YouTube. Donc voilà. Ici, donc voilà.
Et ce que permet cette plateforme aussi, c'est de payer un prix fixe, mais aussi de payer plus que le prix fixe.
C'est ça, si tu veux soutenir l'artiste, tu peux faire...
Voilà, soutenir l'artiste. Bah, j'ai un exemple, j'ai soutenu dernièrement un artiste que j'ai beaucoup apprécié sa musique et j'ai acheté toute sa musique. Il s'agit de Millennium Resorts. Et en réalité, j'ai acheté sa musique, j'ai acheté le double de ce qu'il proposait. Voilà, comme ça, je le soutiens bien. Au final, c'était pas grand-chose, je crois que ça devait être 20 dollars au final. Qu'est-ce que 20 dollars quand on aime bien la musique d'un artiste? Et en plus, son album, il faisait 10 tracks, donc c'est pas rien. Donc ça fait 2 dollars la track, quoi. Et lui, il proposait ça à deux fois moins cher, quoi. Donc voilà. Et puis pour lui, c'est directement ses sous dans sa poche avec la petite commission de 15% de Bandcamp. Voilà, donc ça c'était pour Bandcamp.
Ce que je voulais dire en plus par rapport à Bandcamp, c'est que autant SoundCloud, c'était un peu, historiquement, c'était un peu la plateforme de partage de musique un peu plus électro, de mix DJ, de podcast, etc. Mm-hmm. Bandcamp, historiquement, c'était un peu la plateforme, justement, voilà, pour les artistes indés qui n'ont pas un label, etc., c'était la plateforme pour vendre sa musique pour les groupes de musique, etc. Ouais. Donc, c'était, historiquement, c'est un peu la même philosophie, mais SoundCloud, c'était plus électro. Et Bandcamp, c'était plus tout ce qui était groupe de rock. Parce que c'était souvent dans le rock et les genres qui vont avec. Mm-hmm. C'est plus souvent, tu sors un album avec la pochette et tout ça et t'essaies de revendre ça. SoundCloud, avec les EP, les singles, etc. Bon, c'était plus le modèle électro. Mm-hmm. Mais voilà, mais Bandcamp et SoundCloud, c'est vraiment les deux plateformes de vente en direct de l'artiste au public, à l'auditeur.
Ouais, tout à fait. Je vais passer tout de suite à combien on récupère par stream sur ces différentes plateformes. Et après, on fera un petit comparatif entre qu'est-ce que c'est de recevoir de l'argent par vente directe et ce que c'est de recevoir par les plateformes de streaming. Voilà. Mmh. Rapidement, Spotify, par exemple, pour citer le plus gros, c'est 0,003 à 0,005 centimes, non, c'est dollars du coup, par stream. Donc ça fait moins d'un centime par stream, pour être tout à fait clair.
Voilà.
Pourquoi est-ce qu'il y a une différence 0,03, 0,05 ? C'est en fonction de pays qui t'écoutent, oui. Puisque Spotify ne fait pas payer son abonnement de la même manière en fonction du pays. Et puis en fonction si c'est aussi un auditeur gratuit sur lequel il peut y vendre de la publicité ou un auditeur qui paye un premium qui lui rétribue de toute manière. Donc il y a un peu de ça qui rentre en jeu. Peut-être à penser le jour où vous ciblez des pays particuliers, vous dites je vais cibler un grand pays bien peuplé où personne a déjà entendu ma musique. Et puis en fait tu te retrouves avec peut-être 1 million de streams mais avec beaucoup moins de revenus. Voilà. Donc ça c'est Spotify. Bon, c'est pas grand chose. Maintenant si on va voir une plateforme qui rétribue un peu plus de souvenirs. Apple Music rétribue déjà beaucoup plus. C'est 0,007 à 0,01. Donc là, on est déjà à 1 centime par stream.
Ouais, donc là,
c'est déjà plus. Ouais, c'est déjà le double. Et donc, ça peut être un bon deal, sachant que Apple Music pas que disponible sur les plateformes Apple, bien sûr. Mais en tout cas, il y a énormément de possesseurs de téléphones Apple. Il y en a toujours de plus en plus. Je sais que l'Asie, en tout cas, le Japon s'équipe aussi de plus en plus de iPhone. Donc, il y a vraiment des marchés à ce niveau-là. Même si ça ne veut pas dire que tu as un iPhone que tu vas forcément prendre Apple Music, parce que tu vas aussi peut-être avoir Spotify, tout simplement. Donc, c'est un peu le problème. C'est que, OK, Apple Music, il y a une image un peu plus clean. Voilà, c'est Apple, tout va bien chez Apple. Ils te proposent aussi de charger de la musique en meilleure qualité et aussi en Dolby Atmos, je crois que c'est ça.
C'est ça, tu as des playlists, ouais. même des playlists entièrement Dolby Atmos.
Voilà, donc si par exemple à la maison, tu es occupé d'une super chaîne IFI Dolby Atmos et que tu mets ton Apple Music ou tu colles ton smartphone ou je sais pas quoi, bah tout d'un coup, tu peux avoir ça. Je pense pas que tu peux trop l'avoir dans ton casque, quoique il y a peut-être des casques un peu surround, mais bon, voilà. Moi, je mixe pas en Atmos, ça c'est sûr. Mais voilà, tu vas avoir vraiment une qualité, une rétribution des artistes, etc. Par contre, tu as beaucoup, beaucoup moins d'abonnés que Spotify, qu'on s'en plaît. Donc ça, il faut y faire attention. Ensuite, tu vas avoir du Deezer aussi, qui va rétribuer à $0.0064 par stream. Tu vas avoir Tidal et Qobuz, qui rétribuent pas mal. Pour Qobuz, c'est 0.0043 et pour Tidal c'est 0.012, donc on est flirte un peu avec du Apple Music, hein, déjà. Même Qobuz 0.043, pas mal. Mais là, malheureusement, même constat, il y a encore moins de personnes abonnées sur ces plateformes, et il faut faire attention aussi au public qui s'abonne à ces plateformes, hein. Si c'est par exemple hip hop rap, etc., qui cherche, bon, bah, tout d'un coup tu seras peut-être pas à la cible si tu fais de l'électro, donc à faire attention à ça. Il y a Napster aussi qui existe encore, hein, bien entendu, $0.019 par stream. Amazon c'est $0.004 par stream. Donc là c'est vraiment nul à chier. Mais il y a encore pire, c'est YouTube Music. YouTube Music. $0.00069 par stream. Parfois un peu plus. Voilà, en fait, ça dépend aussi de eux, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme blé avec toi. Puisqu'en fait, YouTube Music, c'est, à l'époque, ça s'appelait Google Music, hein, a été mergé avec YouTube. Mm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as une plateforme artiste YouTube Music, en fait, tu as ta musique publiée à la fois sur YouTube Music, mais à la fois sur YouTube tout court. Ouais. Donc, c'est un petit peu un exercice que moi, je fais aussi beaucoup. C'est que quand je publie ma musique sur YouTube Music, et en plus, c'est la plateforme sur laquelle j'écoute, ben, je m'arrange pour que sur le côté YouTube tout court, j'ai un petit clip qui accompagne ma musique, histoire que ça soit pas juste un fond noir. Voilà. Et que comme ça, il y a aussi des streams qui sont générés côté YouTube de ma musique. Mmh. Voilà. Puisqu'il mélange aussi le Content ID entre les deux plateformes, etc. etc.
Donc, en tout cas, le ouais. constat est, c'est pas beaucoup, peu importe la plateforme.
C'est pas beaucoup, c'est pas assez, voilà. Ça, c'est sûr. SoundCloud aussi, il y avait un truc particulier, il me semble, parce que j'avais un peu lu leur doc. Alors, d'après ce qu'on peut lire, c'est $0.0025 par stream, mais en réalité, c'est très variable, et eux, ils le précisent, c'est en fonction de, est-ce que t'es écouté par des écoutes entre guillemets gratuites, ou est-ce que t'as un mec qui a payé le SoundCloud Go et puis qui t'a écouté, quoi.
Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes, la plupart, en fait, comment dire, ils agrègent tous les revenus qu'ils font dans un pool, donc et puis ils divisent simplement par entre les artistes. Donc forcément, c'est les plus gros artistes qui en tirent avantage, qui en gagnent le plus. Tandis que pour d'autres plateformes, comme SoundCloud essaie de faire, c'est directement proportionnellement aux revenus que tu as généré pour SoundCloud.
Voilà. Donc, t'es vraiment payé. En fonction de qui t'as écouté, quoi. Tu peux avoir 1000 fans qui t'écoutent et qui ont payé SoundCloud Go, tu vas gagner plein d'argent. Et à côté, tu peux avoir 1 million d'écoutes sur SoundCloud. Mais les gens, ils ont des comptes gratuits et tu toucheras pas grand-chose. C'est un peu le risque, hein, aussi.
C'est ça.
Voilà. OK. Donc voilà, maintenant je fais un petit exercice, hein. Imagine tu as 10 000 fans, voilà, 10 000 fans qui t'achètent pour $10 ton album, on va dire. Voilà, 10 000 fois 10, t'as $100,000 ou $100,000 directement dans ta poche, moins les peut-être 15% finalement si tu passes par Bandcamp. Et si je compare ça à beaucoup plus, c'est-à-dire 1 million de streams, Voilà, bah 1 million de streams, tu touches entre 3 000 et 5 000 dollars, et encore ça, c'est sur Spotify. Ouais.
Et en plus, c'est si ton fan il a écouté ton morceau 100 fois pour arriver à 1 million.
Exactement. Donc là, c'était vraiment encore une échelle plus haute, quoi.
Ouais.
Maintenant, l'idée, c'est qu'effectivement, le streaming, comme il est très, très pratique à utiliser pour les gens, tu es susceptible d'avoir des gens qui t'écoutent régulièrement, tous les jours.
Le problème, c'est ça, le problème du streaming pour les artistes, c'est qu'en fait, le streaming, c'est génial d'un point de vue consumer, d'un point de vue client, auditeur, parce qu'en fait, ça a démocratisé la musique, parce qu'en fait, pour le prix d'un album par mois, bah, tu as accès à un catalogue illimité, donc tu peux écouter autant de musique que tu veux pour un accès limité, pour seulement le prix d'un album par mois, pour 10 euros par mois. Et donc, c'est super avantageux pour les auditeurs. Mais le problème, c'est que forcément, vu que tu n'as plus que 10 euros à devoir diviser en tous les artistes que tu écoutes, bah, ça fait qu'on en arrive à des montants très faibles pour écouter l'artiste. Donc, le streaming, autant ça a fait l'avantage des auditeurs, autant ça s'est fait aux dépens des artistes.
Mmh.
Alors que quand tu achètes ton album, pour générer l'équivalent d'un album, comme je dis, il faudrait à écouter plus de 100 fois, et encore, ça ne suffirait pas, c'est 200 fois. Quoi. Donc, c'était, quand tu souvenais l'artiste, c'était plus simple avec un album. Tandis que là, tu auras beau écouter 200 fois la musique, tu arriveras à peine à l'équivalent de si tu l'avais acheté son album. Donc, bon, ce qui est fait beaucoup et ce qui n'arrive pas souvent. Bon. Moi aussi, j'écoute des musiques en boucle, mais 200 fois, je ne suis pas sûr.
Voilà. Donc, en fait, ça réduit pour moi la plateforme de streaming. Soit t'es très bien soutenu derrière et puis t'es déjà un bon artiste qui passe un peu partout sur toutes les ondes radio et à la télé ou je sais pas où. Et puis, t'as vraiment confortablement, je sais pas moi, 1 million, 2 millions, 3 millions de streams par mois, facile. Donc là, ok, tu peux en vivre. Mais je peux te dire que derrière, il faut, pour avoir ce nombre-là, ces chiffres-là, il faut avoir dépensé au moins autant que ce que tu reçois, même plus, pour arriver à ça. Par contre, si derrière, tu as des fans vraiment qui te suivent et qui t'achètent directement tes albums, etc., là, il y a moyen d'en vivre, on va dire ça comme ça.
Et puis, oui, c'est le même constat. Ouais. C'est que je pense que c'est plus réaliste d'avoir une centaine de fans mais qui te soutiennent en achetant tes trucs régulièrement. Parce qu'un million de streams, si tu dois faire ça par mois en plus pour pouvoir continuer à en vivre, donc il faut que tu aies un million de streams par mois, pour moi, tu es déjà à un stade de niveau de star nationale déjà pratiquement.
Effectivement.
Donc,
autre chose, c'est que là, on parle de nous en tant qu'artiste individuel, mais si tu veux commencer à avoir
un groupe de rock ou un truc comme ça.
Niveau-là, alors déjà ça, ou alors si tu veux simplement avoir un niveau national ou international, déjà, il te faut une équipe derrière. Donc, souvent, on va parler d'un label, on va parler d'une équipe de promo, etc. Tous eux, ils vont aussi se prendre leur part là-dessus. Et si tu es un groupe avec 5 membres dedans, tu divises par 5, que ça soit clair. Donc, regarde, je te parlais de 100 000 euros avant, divisé par 5, on n'est plus pareil, quoi. Donc, faut y aller, quoi. Faut charcuter derrière, quoi. Donc, voilà, c'est pas forcément évident. Nous, on a encore de la chance, on est des artistes individuels, on produit, on est artiste, etc., jusqu'au bout. C'est de plus en plus simple de nos jours de l'être, mais... Voilà, ça reste quand même difficile d'avoir des rétributions correctes. On a déjà parlé de la distribution un peu physique, donc vinyle, CD, cassette. Moi, je suis plus vinyle, j'utilise Elastic Stage qui propose du pressage ponctuel, c'est-à-dire que...
On demande.
On demande, voilà.
C'est le terme.
Voilà, exact. Donc, tu n'as pas besoin de commander 100 vinyles d'un coup. Mais tu peux dire, ok, voici ma musique, voici ma pochette, voici les infos, voici mes royalties, tous mes infos d'artistes, etc. Et puis, tu peux presser un vinyle de test, et puis s'il te convient, tu mets une boutique en ligne, un peu comme Bandcamp. Ouais. Et puis les gens qui veulent l'acheter, ils vont dessus, ils payent, et puis tu reçois une rétribution.
C'est ça, ça c'est un des avantages qu'on a à notre époque maintenant, c'est cet aspect on-demand, donc c'est impression à la demande uniquement, parce qu'à l'époque, t'as un groupe de rock, tu veux vendre tes albums, tu devais te faire 1000 ou 10 000 cassettes, et après, ou CD, et après, t'avais le stock chez toi, donc t'étais même pas sûr de pouvoir les vendre, et donc du coup, tu devais t'arranger, tu devais déjà stocker la marchandise, Et en plus, bah, tu devais t'arranger à d'être sûr de pouvoir écouler tout ton stock pour pouvoir récupérer ton argent. Tandis que maintenant, avec le on-demand, donc que ce soit pour les cassettes, les casquettes, les CD, etc. Donc c'est vraiment, l'auditeur, il passe la commande. Et alors, c'est le printer, l'imprimeur qui va directement envoyer au client et il se prend juste une commission sur la pression. Donc du coup, tu n'as plus de stock à gérer et ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc.
Voilà. Après, ça, c'est tout encore un autre débat, mais effectivement, bon, là, dans le cas de Elastic Stage On Demand, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup plus cher que si tu achètes un stock de 100, que tu le gères toi-même et que tu peux après le vendre à 20, 25, 30 euros le vinyle. Alors que là, on est plus dans les 40, 50 euros le vinyle. Hein.
Donc, oui, mais après, la sécurité de ne pas pouvoir vendre, le stockage aussi, il le faut, et aussi que ce soit de bonnes conditions pour se déménager, c'est un coût aussi, un coût caché. Quoi.
Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, ça existe. Moi, je l'ai utilisé et puis bah, au pire, vous retrouverez ma musique là-bas. Voilà, donc aussi, bah, pourquoi pas mélanger du merch derrière. Bandcamp propose de gérer ton merch aussi, mais c'est une boutique plus ou moins manuelle, hein, on va dire. Et puis en fait, eux, ce qu'ils génèrent, c'est qu'ils vont te générer un bon d'expédition, mais ce n'est pas eux qui vont l'expédier pour toi, ni te le presser, ni rien du tout. Donc en gros, tu y gères ton stock, tu dis voilà, j'ai 12 casquettes et 3 vinyles, voilà le prix. Et puis, quand il y a un client qui achète, eux, ils s'occupent de faire la transaction pécuniaire. Ils prennent leur commission de 10% et puis ils te génèrent le bon de livraison, finalement. Après, tu n'as plus qu'à mettre ça sur ton colis à l'envoyer. Donc, ça te fait déjà pas mal, hein, parce qu'une boutique, faut le gérer. Hein. Et en plus, eux, ils te permettent de gérer tes fans, puisque tes fans vont déjà théoriquement acheter ta musique. Donc, si tu proposes à ces mêmes fans, ah bah, tu veux acheter ma musique virtuelle, tu n'as pas une casquette en même temps, bah voilà, tout d'un coup. Donc, c'est un bon deal aussi d'utiliser ça pour ça. Maintenant, quelques diffusions de niche aussi, comme Beatport. Toi, tu as eu plus d'expérience que moi dans Beatport. Tu peux m'expliquer ce que c'est ?
Oui, Beatport, c'est un peu le catalogue pour les DJ, enfin la base en tout cas. Et en fait, c'est un peu comme Bandcamp, sauf que là, ce n'est pas du tout en direct, c'est un intermédiaire. On peut acheter le fichier audio en non compressé. Et comme ça, on peut télécharger la musique. C'est ce que les DJ font souvent pour avoir la musique en haute qualité et acheter bah, leur librairie pour pouvoir faire leur mix. Donc voilà.
Voilà. Parce qu'effectivement, le DJ, en théorie, il devrait être suffisamment réglo avec les artistes et utiliser une copie légitime de la musique de l'artiste.
C'est ça.
C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de venir avec ton MP3 ou tes CD gravés, etc. Je me souviens à l'époque, entre le passage du vinyle et du CD, je voyais des DJ venir avec ces grosses pochettes noires et ils ouvraient et puis ils avaient plein de CD écrit au marqueur dessus, tu vois. Voilà, ouais. Hein, c'était une certaine méthode. Et après, est venu assez vite remplacer, enfin le MP3 est très vite venu remplacer ça avec les fameuses clés USB que le DJ se trimballe pour aller mettre ses musiques. Mais oui, bien sûr, il peut avoir des MP3 illégaux. Problème du MP3 un peu illégal, entre guillemets, que tu vas trouver sur des plateformes de téléchargement ou que tu vas ripper toi-même, c'est la qualité, en fait. Tu sais pas vraiment la qualité qu'il y a derrière. Est-ce que la compression était bonne? Est-ce qu'il n'a pas été compressé 3 fois avant de venir chez toi? Est-ce que toi-même, quand tu vas ripper ton CD ou ta version originale ou essayer de la télécharger depuis YouTube Music, est-ce que ça va être une très bonne qualité? Bon.
C'est un exemple.
La réponse va être, je dirais non, mais ouais. Vas-y.
Moi, justement, Beatport, je m'en sers pour ça. En fait, il y a aussi le problème que tu relèves, c'est que tu ne sais pas combien de fois ça a été rippé, compressé, recompressé, etc. Par exemple, si tu télécharges, tu rips sur YouTube, ça a été compressé 1000 fois. Et va savoir si le mec qui a fait posté la vidéo, il n'a pas déjà compressé lui-même ou il n'a déjà pas récupéré dans une autre vidéo ou quoi. Et en fait, moi, quand je veux télécharger des pistes de référence, que ce soit pour le mix, que ce soit pour m'inspirer ou quoi que ce soit, pour le mastering, en fait, j'achète mes pistes de référence sur Beatport. Comme ça, je suis sûr que la qualité, donc en dehors de l'aspect purement légal et pour être réglo, il y a aussi le fait, c'est que je suis sûr qu'en téléchargement directement à la source, le fichier, je suis sûr qu'il n'a pas été altéré ou abîmé ou quoi que ce soit. Donc, je suis sûr que j'ai le fichier de la meilleure qualité possible pour pouvoir l'utiliser comme piste de référence quand je fais du mixage ou du mastering.
Et ouais. Donc là, tu réfères directement à l'épisode précédent. Ouais. Toujours utiliser une track de référence pour autant le mix et le mastering. Mais c'est vrai que si tu pompes d'une plateforme de streaming, voire même tu prends ton Spotify pour écouter ta piste de référence, le problème, c'est que ces plateformes de streaming effectuent un retraitement derrière pour égaliser, pour etc., etc. Donc, en fait, tu te retrouves à mixer, masteriser selon des standards de cette plateforme-là, en gros. Donc, c'est peut-être pas une bonne chose. Donc, très belle astuce. D'ailleurs, ouais, j'avais même pas pensé à ça. Mais oui. Donc, c'est bien.
Ouais,
donc,
parce toi, que les artistes, maintenant... ils n'ont pas toujours un Bandcamp. C'est souvent les indés.
Ouais.
Tu vas prendre un David Guetta ou quoi. Je pense pas qu'il a un Bandcamp. Donc, du coup, mais par contre, sur Beatport, t'es sûr de le trouver le fichier. Et voilà, Copius donc... aussi, qui est plutôt français.
Donc Beatport, tu vas dessus et tu dois payer, je crois, $1 et quelques la track, hein, c'est juste?
Ouais, parfois plus quand c'est en wave.
Ouais. Et donc là, en fait, l'idée de ça, c'est que Beatport, lui, il s'intègre très bien avec les logiciels de DJing. Donc il a des accords pour le faire, à savoir Recordbox et Serato, peut-être Traktor, je ne sais plus trop, bref. Et du coup, en gros, tu achètes ta musique là-bas et puis depuis ton logiciel de DJing, tu peux directement l'importer et puis le jouer. Et là, tu es sûr qu'il y a eu zéro... compression due à la plateforme derrière, quoi. Donc ça, c'est cool. Ok, on avait aussi un sujet sur radio locale, web radio, mais en fait, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Donc peut-être
plutôt
un épisode.
Mais...
Ouais, fera peut-être un... Alors moi, c'est quelque chose que je commence à envisager de plus en plus, hein, mais j'en parlerai du coup peut-être dans un autre podcast dédié à ça, justement. Je sais que Azekeno a aussi un peu d'expérience là-dessus. Il a des amis qui tiennent une radio locale, une radio web radio, je crois, en Belgique. Et ça sera peut-être intéressant de voir avec eux et avec lui. Ça pourrait être quelque chose de cool. Moi, j'envisage de proposer mon dernier track à certaines radios. Donc, je vais voir ce que ça représente. Et toi, je crois que par Groover, tu utilisais aussi le fait de publier sur des radios, c'est juste ?
Oui, j'ai 2-3 web radios, oui.
Voilà. Mais ça, pareil, à part Pandora, hein, qui est un petit peu un pendant radio aux États-Unis. Moi, je me semble pas que mon distributeur envoie des radios, hein. En tout cas ma musique. C'est pas du tout prévu comme ça.
Ben, voilà. Il envoie dans les sociétés partenaires de catalogue qui, elles, peuvent peut-être en proposer à des radios, mais le problème, c'est que c'est un peu flou, quoi.
C'est un peu flou, ouais, ok. Mais il reste toujours, ben, si vous visez une web radio en particulier, allez voir la page de cette web radio, regardez s'il y a un moyen de soumettre une musique où il y a peut-être une page contact, ou sinon passer par effectivement Groover, qui permet de rassembler un peu certaines web radios qui sont là-dessus et qui distribuent la musique. Alors après, on parle moins de distribution, on parle plus de promotion finalement. Hein, voilà. Une web radio, tu lui envoies sa track, elle va te promouvoir pendant quelques temps et elle va te mettre dans sa playlist, et puis après, ben, au bout d'un moment, elle va arrêter, quoi. Elle n'est pas tenue de te proposer à leur catalogue constamment, quoi. Voilà. Et oui, voilà. Ensuite, il y a le gros sujet, mais on va y aller assez vite parce que je pense que c'est aussi peut-être un épisode complètement à part. Mais
oui.
C'est quelque chose qu'on fait aussi dans cette étape de distribution. En tout cas, moi, je l'ai fait assez vite et toi aussi.
Oui.
C'était, entre guillemets, protéger sa musique au niveau des droits d'auteur sur nos plateformes respectives nationales, fédérales pour la Suisse, du coup. Que sont la SACEM en France, la SABAM en Belgique et la SUISA en Suisse. Ces organismes-là sont plus ou moins des organismes qui sont là pour protéger l'artiste et qui vont, ben, si tu leur dis rien, ils vont pas savoir que tu existes, mais il va falloir que tu t'y inscrives. Mmh. Souvent, il y a des conditions d'inscription. Je me souviens, on avait regardé ça à l'époque. Il fallait, dans certains cas, avoir au moins tant et tant de tracks publiés quelque part. Je sais plus si c'était 1, 2 ou 3. Tu te souviens, toi, pour la...
Je crois que c'est pour la SACEM.
Ouais, mais pour la SABAM, t'avais...
Non, ça va, il n'y a pas de restriction, à part que t'as un prix d'entrée, je crois que c'est parce que c'est un modèle coopératif, et du coup, je crois que tu dois payer 90€ unique. T'as une inscription à vie dedans, et t'as des parts de la SABAM, en fait.
D'accord. Voilà. Oui. Alors, qui nous en avait parlé insistamment à l'époque, c'était lors de notre masterclass avec donc, c'était Deep Forest, hein, qui nous oui. avait encouragé à le faire. Alors lui, sa petite anecdote, c'était la suivante, c'était, il disait, bon voilà, il était déjà d'un certain âge, hein, je pense qu'il avait la soixantaine passée maintenant, si je me trompe pas. Et en fait, il a reçu une fois un courrier de la SACEM qui lui disait, ah bon, maintenant vous touchez une retraite. Alors ça lui a mis un coup de vieux, hein, sur le moment. Mais en gros, la SACEM est un organisme qui protège l'artiste. C'est-à-dire que lui, il va surveiller que quand ta musique passe ou est utilisée par, je sais pas moi, des artistes dans des bars, dans des restaurants, qu'elle est diffusée, je sais pas, par un DJ en boîte, sous couvert qui déclare bien déjà le fait qu'ils utilisent, enfin déjà qu'ils diffusent de la musique et en plus qu'ils utilisent la tienne. Hein. Donc, à chaque fois que ta musique est utilisée dans un espace public, la SACEM, elle peut rétribuer l'artiste. Et je pense que Deep Forest, qui est quand même une personne dont sa musique a été largement diffusée un peu partout, ben, a bien profité de ce système. Il y en a d'autres aussi, hein, que la SACEM, la SUISA, etc. Mais ça, ça sera un autre débat. Et en fait, comme il avait suffisamment, en fait, très tôt, il l'avait déclaré et il a très vite touché, grâce à son succès, des revenus de cet organisme-là. En fait, en fin de carrière, la SACEM, ou en tout cas ces organismes-là, je ne sais pas si la SABAM le fait ou la SUISA le fait, mais à un moment donné, cotise aussi pour toi dans une certaine caisse de retraite et puis il va te tout faire toucher une retraite. Quoi. C'est assez, assez drôle à dire, mais il ne faut pas oublier de le faire. Alors, peut-être qu'au début, on va se dire de toute façon, je n'ai pas assez de succès, etc. Mais en fait, plus tôt tu le fais, plus tu as de chances d'avoir des rétributions. Et pas seulement des espaces publics, mais en réalité, les plateformes de streaming, elles te rétribuent pour tes royalties parce que tu passes sur leur plateforme, mais elles vont aussi donner une partie à la SACEM. Et si la SACEM sait que tu as des écoutes sur ces plateformes-là, bah, elle va aussi te rétribuer une partie. Alors, c'est un sujet infini hein, de se dire, mais c'est quoi les royalties? C'est quoi les droits de diffusion? C'est quoi le droit de mastering? C'est quoi le... Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi, quand toi, tu te représentes dans un espace public ou que quelqu'un te joue lors d'un concert, bah, ça, c'est aussi des droits que tu peux toucher derrière, enfin, des droits de performing, etc. Enfin, c'est tout un truc. Et ça sera un épisode dédié. Toi, t'es toujours content de la SABAM, toi, apparemment ?
Oui, aucun problème. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais oui, la SABAM est très bien. C'est une coopérative, donc c'est fait par des artistes pour des artistes. Donc,
c'est ça.
Elle a l'air d'être très militante pour les droits, etc. Parce que j'ai vu encore qu'il y avait le nouveau gouvernement belge qui avait voulu, comme ils font des économies de bout de chandelle un peu partout, ils ont voulu toucher aux droits des artistes et la SABAM a bien discuté avec le gouvernement et ils ont réussi à leur faire changer d'avis. Parce que bon, on va dire que les artistes, c'est quand même un peu précaire, donc bon, pouvoir faire des coupes sur des gens précaires, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais voilà, donc du coup, non, la SABAM, oui, j'en suis très content, très content.
Ouais, c'est pas une problématique, mais je dirais, ces caisses-là, si on s'y inscrit pas, on n'y touche rien. Et je pense qu'il y a un bon lot d'artistes qui oublient de le faire et dont leur argent bah, reste dans cette caisse, en final.
Ou même qui se disent, c'est pas pour moi, moi je fais ça que pour le fun, et bon, voilà, je mets mes petits trucs vite fait, mais bon, ils se disent pas que voilà, ça pourrait peut-être un jour, ils seraient contents de l'avoir fait, quoi.
Voilà.
De protéger sa musique, parce qu'on sait jamais.
Pas hésiter à le faire. Moi, la SUISA, bah, je m'y suis inscrit, il y a un droit d'entrée hein, qui est assez, je crois, conséquent, je crois que c'était 200 francs suisses. Voilà. Mais après, j'ai plus rien à payer. Et à chaque fois que je sors un morceau, ben, j'ai une petite plateforme en ligne où je dis, ben voilà, le nom de ma track, voilà à peu près les instruments que j'ai utilisés dedans. Voilà. Je donne un peu des détails pour que ça leur donne aussi, voilà. Est-ce que s'inscrire à la SUISA, à la SABAM, à la SACEM, ça constitue une preuve que c'est bien ta musique?
Non, ça c'est pour t'enregistrer en tant qu'auteur, mais il faut en plus, il faut déclarer à ces organismes-là pour tes droits d'auteur. Mais en plus, si tu vas avoir un certificat comme quoi ta musique, le certificat de paternité, il faut par exemple aller sur onlinedepot.eu et là tu peux déposer ta musique, ce qui est une procédure différente.
Ouais. Voilà, donc ça c'était bien pour préciser ça. Effectivement, onlinedepot, il y en avait un autre, non, il me semble?
Oui, il y en avait un autre, mais je crois que celui-là, il est payant, donc je n'ai pas retenu. Oui, je crois qu'il a été fait par SACEM, alors que c'était par la SABAM.
Alors, ça veut dire quoi? C'est simplement, bah, écoute, moi, en 2023, j'ai sorti un track, et puis je l'ai posé sur ces dépôts-là. Si, dans 5 ans, tu as une personne qui va ressusciter ce morceau et va en faire un tube mondial, en le modifiant légèrement, j'en sais rien, en le disant, et que tu veux rentrer en conflit avec lui, il va te dire, ouais, mais... C'est quoi la preuve que c'est ton morceau? Voilà. Alors, tu vas dire, ouais, mais je l'ai mis à la SACEM, à la SABAM. Oui, mais là, tu as juste enregistré... En fait, tu as enregistré un nom de track, mais t'as pas déposé tes partitions, t'as pas déposé le fichier, voilà. Donc, tu as zéro preuve. Oui, mais je l'avais déjà sur les plateformes de streaming avant. Ouais, ben, moi, je suis le premier à l'avoir déposé, donc c'est moi qui ai gagné.
C'est ça.
Voilà, donc faites attention aussi à ça. Mais ça aussi, pareil, c'est un autre débat. Voilà, voilou. Ben moi, oui, SUISA. Alors, toi, la SABAM, elle te soutient quand même pas mal sur des projets. Elle finance un petit peu des choses.
Oui, elle finance des masterclass, des camps d'écriture où ils regroupent des artistes, ce genre de choses-là. Donc, il y a aussi moyen d'avoir, j'ai pas encore essayé, mais il y a moyen d'avoir une bourse unique pour, qui peut aussi être utilisée pour de la formation que pour de la promo ou quoi. Mmh. Donc, voilà. Et ouais. Puis après, bon, bah, de manière générale, elle lutte pour protéger les artistes.
Voilà. Et la Suiza aussi, ouais. Bah, moi, j'ai vu, bon, je n'ai pas encore utilisé leur service, mais tu peux monter des dossiers, des projets. Ils ont la Fondation Suiza, je pense, qui est attenante à la Suiza, en fait. Et elle, sur dossier, bah, tu leur présentes un projet, c'est-à-dire, oui, je sais pas, moi, je veux monter un album, un concept. Il me faut tant et tant pour louer la salle d'enregistrement. Il me faut tant et tant de promo. Il me faut tant et tant de. Il faut que j'achète du matériel. En fait, tu fais ta liste de courses, quoi. D'ailleurs, tu files le fichier Excel à remplir, tu vois. Pour tous tes frais, etc. Donc, ça te donne une bonne idée de ce qu'il faut penser. Et tu leur présentes le projet et puis ils te l'acceptent ou ils te le refusent. Mais ça, c'est pareil, hein, c'est des caisses qui sont là. C'est pas eux qui vont venir chez toi et te dire viens, utilise mon argent. Donc, je pense qu'il faut, bah, il faut aller le faire, quoi. Toi, tu l'as fait dernièrement pour une formation. Mmh. T'as été pris, t'as été retenu et t'as eu cette formation gratuite. T'as eu de chance, enfin, t'as eu pas que de la chance, mais t'as eu aussi eu l'audace de le faire. Et au final, bah c'est génial, quoi. Je veux dire, faut pas hésiter, quoi. Faut pas se dire, ouais, comme on disait avant, hein, ouais, c'est pas pour moi. De toute façon, je suis pas suffisamment un gros artiste. Bah oui, mais si tout le monde se disait ça, personne
utilise cette plateforme-là.
C'est fond, quoi. C'est un peu le problème.
C'est sûr que cette plateforme-là, en général, c'est des organismes. Elle propose d'autres services que de juste enregistrer les droits d'auteur. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder un peu sur leur site et de voir ce qu'ils proposent comme aide. Et voilà, donc ça peut être, il peut avoir des intérêts à s'enregistrer auprès de ces organismes-là, mmh, que de juste protéger sa musique, en fait.
Tout à fait.
Ses droits d'auteur.
Voilà. Et il y a des tremplins aussi. Ils proposent des tremplins, genre une ou deux fois dans l'année, des concerts dans des grands festivals, comme, je sais pas moi, je sais qu'il y a les Eurocaines dans l'est de la France où tu as des tremplins. T'as le Montreux Jazz Festival qui propose des tremplins, et puis c'est soutenu par la Suiza aussi. Donc. Faut regarder un peu les dates, et puis en fonction de ces dates-là, tu peux être pris. Il y a aussi, pour tout ce qui est Eurovision, bah, ces organismes-là sont très impliqués, et puis ils cherchent souvent, alors je dirais pas qu'ils vont aller chercher dans des artistes inconnus la nouvelle star, mais je veux dire, il y a des présélections et des choses comme ça qui peuvent te mettre sur la map, on va dire ça comme ça, de certains labels, etc., si tu fais partie de ces présélections et que t'as tapé à l'œil, quoi, on va dire. Donc, faut pas hésiter à aller taper dans ces organismes-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, finalement, de tout ça? C'est vrai que nous, on est encore un peu dans nos débuts. Donc, je ne sais pas trop. Moi, au niveau des revenus que j'ai générés, pour être tout à fait honnête, pour montrer ma compta, je crois que je suis à $125 de rétribution sur le streaming. Voilà. Bravo à moi. Mmh. J'ai commencé à avoir des rétributions de la part de la Suiza aussi, mais c'est très peu, je crois. Enfin, c'est proportionnel à ce que j'ai eu sur les plateformes de streaming. Et j'ai eu quelques ventes sur Bandcamp. Je crois que je devrais être à $20 ou $30, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Est-ce que ça m'encourage? Oui. Est-ce que ça me nourrit? Absolument pas. Mais je me base pas là-dessus. Mon objectif pour l'instant est de faire connaître ma musique et puis on verra si un jour elle paye mes factures. J'ai encore beaucoup de doutes, mais c'est pas grave, je me décourage pas. Et toi, de ton côté?
Bah, moi ici, je recommanderais simplement de bien se renseigner avant. Bon, après, de pas trop se prendre la tête non plus, parce qu'un distributeur, globalement, il fait son rôle. Je crois que c'est vraiment l'usage qu'on verra, ce qui peut participer, ce qui peut proposer intéressant ou pas. Et voilà, après, pour le reste, ben, voilà, c'est juste la distribution finale. Il y a beaucoup à dire, mais en même temps, dans le concret, c'est juste pour mettre sa musique sur les plateformes. Donc, faire ça, peut-être réclamer les accès pour artistes, Spotify for artistes, et par exemple, ouais. Apple Music for artistes, etc., si on veut mettre à jour ses profils. Et c'est tout, en fait, simplement. Donc, voilà, il faut bien commencer quelque part, c'est la première étape.
En tout cas, ouais, moi, ce que j'aime bien avec ces réseaux de distribution, c'est qu'au début, pour pas trop cher, tout d'un coup, paf, c'est sur plein de plateformes en même temps. Voilà. Si tu te dis, OK, je vais que sur SoundCloud et Bandcamp, bah, tu te fermes des portes parce que déjà, c'est pas des plateformes très, très, très visitées. Pas autant que les plateformes de streaming. Et comme je l'entendais encore dernièrement, beaucoup te conseillent, voilà, c'est de se dire, si tu veux vraiment gagner de l'argent, investis ton temps, on va dire, plutôt sur trouver des fans qui vont te suivre sur ton Bandcamp, peut-être SoundCloud, etc. Ou sur ton merch, etc. Par contre, utilise les plateformes de streaming comme de la publicité, comme de la promotion, finalement. Parce qu'elles te rapportent rien. Mais par contre, elles ont un vivier monstrueux de gens qui écoutent, quoi. Parce qu'il y a un côté pratique de cette plateforme. Moi-même, je l'utilise. Donc, au final, considère pas ton Spotify comme ton futur employeur, quoi. Ça, c'est sûr.
Ouais.
Voilà. Après, là, on a abordé encore la distribution et la rémunération pour un artiste individuel chez lui à la maison qui veut juste publier de la musique. Mais bien sûr, il reste bien sûr la représentation live, les concerts, le DJing, le fait de faire du DJ mariage. J'en sais rien. Ça, c'est toutes des sources de revenus, mais c'est pas le sujet. Et c'est aussi un moyen pour toi de distribuer de mano à mano ton support physique, ton accès Bandcamp, etc. Voilà, être DJ devant du monde, ben, te permet peut-être de te faire connaître. Ça, c'est sûr.
C'est ça.
Voilà, voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter là-dessus ?
Non, je pense qu'on a été assez... On a bien détaillé tout.
Ouais. On n'a pas fait un peu le tour de nos actus, même si je pense qu'en cet été, elle n'est pas trop différente des derniers podcasts. Toi, t'as eu des petites nouveautés entre-temps ?
Ben, j'ai mon projet qui a été un peu mis en pause ces deux derniers mois. Va repartir avec notre collab et puis j'ai un autre track en préparation qui pourra suivre le mois d'après. Donc voilà, qui a plus qu'à besoin d'être mixé mais qui est fini. Donc voilà de mon côté. Et pour toi ?
Ben moi, j'ai un morceau qui va paraître, dont j'ai le nom maintenant, qui s'appelle Now or Never, qui est un morceau d'électro beaucoup basé sur du sample. Je me suis vraiment abusé qu'un sample. Toujours dans un peu la vibe japonaise, voilà. Toujours axé sur le temps présent, puisque le concept de mon EP de cette année, c'est sur le temps présent, sur le maintenant, sur ce qui m'arrive maintenant dans ma vie, de ce que je veux exprimer maintenant. Donc voilà, il sera publié le 21 août et il est en exclusivité sur Bandcamp, il est déjà achetable là-bas. Voilà, c'est un peu ma nouvelle stratégie de dire je publie sur Bandcamp tout de suite et puis en différé sur les plateformes de streaming. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller. On peut même déjà le pré-écouter là-bas, en fait. Et puis l'acheter, me soutenir par ce biais-là. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Je vais faire une belle grosse formation à Bordeaux d'ici le mois de septembre. On verra ce que ça donne chez AudioCamp. Mais je crois que j'en ai déjà parlé au dernier podcast. Donc, voilà. Et puis, on a une collaboration qui va aussi paraître prochainement. Elle est en voie d'être finalisée, en tout cas dans sa forme graphique, on va dire, puisque la forme audio est déjà arrêtée, je pense. Toi, t'en es satisfait ?
Oui, ça va.
Ouais, moi aussi. Voilà, donc on vous présentera ça prochainement. Peut-être qu'elle fera une partie de l'habillage du prochain podcast, pourquoi pas.
Voilà, voilà. Oui, tout à fait.
Je me réjouis d'avoir des retours, si vous voulez bien nous en faire. Cool. Ben, en résumé, ben, la distribution musicale aujourd'hui, voilà, c'est comme un énorme buffet. Hein. On peut tout prendre, mais il faut savoir quoi mettre dans son assiette. Streaming, c'est parfait pour l'exposition, pour toucher un public large, comme je l'ai déjà dit. Mais ça nourrit pas son artiste. Et si on se diversifie pas, ben voilà, ça ramène pas non plus de l'argent. Les ventes directes, elles font vivre et créer un vrai lien avec les fans. Et puis derrière tout ça, il y a aussi partie protection des œuvres, qui est peut-être moins sexy, mais qui garantit qu'on est payé quand notre musique circule. Voilà. Voilà, bah, c'était la fin de ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, hein, qui est l'INVI
musicwithrust.com.
D'accord. Et de là, vous trouverez.
Ah oui, on a entre deux notes, on a entre deux notes.com, c'est vrai, pardon, pas pour moi. Voilà. On a les liens sur les deux.
Oui, c'est vrai. Mais effectivement, Musique 8-13 qui est notre collectif. N'hésitez pas à y aller aussi parce que vous verrez tous les artistes qui font partie de notre collectif. Vous y verrez tout ce qu'on fait, y compris ce podcast qui est francophone et entre deux notes.com. Et dessus, vous avez des liens pour nous soutenir, pour nous écouter, y placer votre petit commentaire, les petites étoiles, etc. Voilà. Avec l'INVI, on espère que cet épisode vous aide à y voir plus clair et vous motive à trouver le mix parfait pour vous dans la distribution. Et comme d'hab, on adore quand vous venez nous dire de commentaires. Voilà. N'hésitez pas à prendre le temps, à venir nous voir sur Insta. Puis voilà, il ne reste plus qu'à dire au revoir à tout le monde. et des gros bisous.
Ciao, ciao.
À bientôt. Merci de nous avoir écoutés.